Emmanuel Kant, la religion dans les limites de la raison. Quatrième partie. Chapitre 1er. La religion chrétienne comme religion naturelle. La religion naturelle, en tant que morale, sous le rapport de la liberté du sujet, rattachée au concept de l'être qui peut donner de l'efficacité à cette fin qu'elle a pour but suprême, au concept de Dieu en sa qualité de créateur moral du monde, et projeté sur une durée qui, pour l'homme, cadre avec toute cette fin, et qui est l'immortalité, est un concept pratique et pur de la raison qui, nonobstant sa fécondité infinie, présuppose assez de facultés rationnelles spéculatives et permet de convaincre de sa vérité tous les hommes d'une façon suffisante, pratiquement, et tout au moins de leur en imposer la pratique comme un devoir. Elle possède en soi le grand caractère exigé de la véritable Église, à savoir les qualités requises pour être universelle. Si l'on entend par là ce qu'il faut pour qu'elle s'applique à tout homme en particulier, c'est-à-dire pour qu'elle atteigne l'unanimité absolue. Pour se répandre ainsi et se maintenir en ce sens comme religion universelle, elle a besoin, sans doute, d'un ensemble de serviteurs, dévoués à l'Église purement invisible, mais non de fonctionnaires. C'est-à-dire qu'il lui faut des docteurs et non pas des chefs. Car la religion rationnelle est particulière à chacun, sans que, grâce à elle, existe une Église en tant qu'universelle association et sans que cette idée vise proprement à rien de pareil. Mais comme une telle unanimité ne pourrait point d'elle-même se maintenir, ni par suite se propager dans son universalité sans l'institution d'une Église visible, et qu'elle a besoin pour cela de l'universalité collective, ou autrement dit, de l'union des fidèles en une Église visible, suivant les principes d'une religion rationnelle pure, et comme, d'autre part, un pareil groupement ne saurait résulter de cette unanimité par lui-même, ou que, s'il était établi, ses libres adeptes ne pourraient point, ainsi que je l'ai démontré plus haut, lui procurer cette stabilité que doit avoir une communion des fidèles, puisque pas un de ces illuminés ne croit avoir besoin pour ses sentiments religieux d'être en communauté de croyance avec d'autres hommes professant la même religion. À moins que ces lois naturelles connaissables par raison seule ne viennent aussi s'ajouter des prescriptions positives accompagnées du prestige législatif, c'est-à-dire d'autorité, on n'aura pas encore, et c'est cependant pour les hommes un devoir tout particulier et en même temps un moyen d'arriver à leur fin suprême, on n'aura toujours point l'union stable de tous, sous forme d'une Église visible universelle. Et l'autorité nécessaire pour fonder une telle Église présuppose un fait, et non pas simplement l'idée pure de la raison. Or, si nous admettons qu'un docteur connu par l'histoire, ou tout au moins par une tradition universelle et solidement établie, est venu proposer une religion pure à la portée de tous, une religion naturelle, et par suite convaincante pour tout le monde, dont il nous est par conséquent possible d'examiner nous-mêmes les doctrines, puisqu'elles nous sont immanentes, que cette religion il l'a enseignée en public, malgré l'opposition d'une foi d'Église dominatrice, accablante et sans but moral, telle que nous pouvons en donner le culte servile, comme le modèle de ceux qu'exigeaient les autres croyances, au fond purement statutaires, répandues alors dans le monde. Si nous trouvons, en outre, qu'il a fait de la religion rationnelle et universelle la condition suprême, indispensable de toute croyance religieuse, y ajoutant simplement des statuts contenant des formes et des observances destinées à servir de moyens pour mettre sur pied l'Église qu'il voulait baser sur ses principes. Malgré la contingence et l'arbitraire des dispositions par lui prises à cette fin, il est impossible de dénier à l'Église ainsi établie le nom de véritable Église universelle, ni à son fondateur le mérite d'avoir appelé les hommes à s'unir en elle, et cela sans vouloir charger la croyance de prescriptions nouvelles et embarrassantes ou donner des actions accomplies par lui le premier comme des actions spécialement saintes et obligatoires par elle-même en tant que partie de la religion. Après cette explication, il n'est pas possible de ne point trouver la personne qui peut être honorée comme ayant créé, je ne veux pas dire la religion pure de tout dogme et inscrite au cœur de tous les mortels, car elle n'est pas d'origine arbitraire, mais la première Église véritable. Et pour confirmer cette personne la dignité de sa mission divine, citons quelques-unes de ses doctrines qui sont manifestement les vraies chartes d'une religion générale, quoi qu'en puisse dire l'histoire. Car il y a déjà dans l'idée elle-même la raison suffisante de son acceptation, et qui évidemment ne peuvent être autre chose que des enseignements de raison pure, car ceux-ci sont les seuls qui se prouvent eux-mêmes et sur lesquels on doit s'appuyer par suite, de préférence, pour faire accepter comme vrais les autres. Tout d'abord, selon lui, ce n'est pas l'observation de devoirs ecclésiastiques extérieurs, légaux ou rituels, mais celle, la pure intention morale, qui peut rendre l'homme agréable à Dieu. Matthieu 5, versets 20 à 48. Le péché en pensée équivaut devant Dieu au péché par action. Verset 28. Et d'une façon générale, c'est à la sainteté que nous devons viser. Verset 48. La haine dans le cœur est, par exemple, équivalente au meurtre. Verset 22. On ne peut réparer l'injustice faite au prochain que par les satisfactions données à lui-même, et non par des actes de dévotion. Verset 24. Pour ce qui est de la véracité, le moyen légal en usage pour obtenir par contrainte la vérité, le serment, porte atteinte au respect de la vérité elle-même. Versets 34 à 37. Note. On ne voit pas pourquoi cette claire interdiction d'un moyen de contrainte, basée sur la pure superstition et non pas sur la conscience, auxquels les tribunaux recourent pour obtenir des dépositions véridiques, passe pour avoir si peu d'importance aux yeux des docteurs de la religion. Que la superstition soit en effet la chose dont ici l'on escompte, plus que de tout autre, les faits, on le reconnaît à ce que d'un homme, qu'on n'estime point capable de dire la vérité, dans une déposition solennelle sur la vérité de laquelle repose la décision du droit des hommes, tout ce qu'il y a de plus saint au monde, on croit pourtant qu'il sera poussé à la dire par une formule n'ajoutant rien à cette disposition elle-même et se bornant à lui faire appeler sur lui les châtiments de Dieu, auxquels à lui seul le mensonge ne lui permet pas d'échapper. Comme s'il dépendait de lui de rendre des comptes, ou de n'en pas rendre devant ce tribunal suprême. Le passage de l'Écriture auquel nous nous référons représente ce mode de protestation comme une témérité saugrenue qui revient à vouloir, peut-on dire, réaliser, grâce à des paroles magiques, des choses cependant au-dessus de notre pouvoir. Et l'on voit bien que le maître avisé qui nous recommande dans ce passage de nous contenter du « oui, oui, non, non » comme attestation de la vérité, parce que ce qu'on dit en plus vient du mal, avait sous les yeux les tristes conséquences que les serments entraînent avec eux. La trop grande importance qu'on leur attribue, en effet, rend presque autorisée le mensonge ordinaire. Fin de la note. Retour au texte. Pour ce qui est de la véracité, le moyen légal en usage pour obtenir par contrainte la vérité, le serment, porte atteinte au respect de la vérité elle-même. Versets 34-37. Le cœur humain doit complètement transformer ses penchants naturels mauvais. Le sentiment si doux de la vengeance doit se convertir en résignation. Versets 39-40. Et la haine des ennemis en bienfaisance à leur égard. Versets 44. En parlant ainsi, nous dit-il, il croit accomplir la loi judaïque. Chapitre 5, 17. Et par là, il montre fort bien que ce n'est point la science de l'Écriture, mais la religion rationnelle pure, qui doit en être l'interprète. Car cette loi, prise à la lettre, autorisait exactement le contraire de tout cela. Par les expressions qu'il emploie de « porte étroite » et de « chemin étroit », il nous prémunit encore, au surplus, contre la fausse interprétation de la loi que les hommes se permettent afin de passer outre à leur véritable devoir moral et de se croire absous d'un pareil manquement par l'observation du devoir ecclésiastique. Chapitre 7, verset 13. Note. La porte étroite et l'étroite voie qui mène à la vie doivent être entendus de la bonne conduite. La porte large et la voie spacieuse que suivent les foules est l'Église. Non pas qu'elle soit responsable, ni ses dogmes non plus, de ce que les hommes se perdent, mais parce qu'on regarde l'entrée dans l'Église et le fait d'en admettre les règlements et d'en célébrer les rites usuels comme étant le culte que Dieu veut, à proprement parler, qu'on lui rende. Fin de la note, retour au texte. D'autre part, il exige que ses intentions pures se traduisent aussi en actes, verset 16, et détruit l'espoir astucieux des hommes qui pensent suppléer aux défauts de bonnes actions par des témoignages de dévotion, rendus au législateur souverain, dans la personne de son envoyé, qu'ils invoquent et qu'ils glorifient, en vue de s'attirer ses faveurs par leur flatterie. Verset 21. Et ses œuvres. Il veut qu'on les accomplisse en public, pour que la postérité les ait comme exemple, verset 16, et de plus avec bonne humeur, non comme des actes accomplis par force et servilement, chapitre 6, verset 16, afin qu'étant peu de choses au début, par communication et par diffusion de tes sentiments, comme un grain de blé dans la bonne terre, ou comme un ferment du bien, la religion arrive par sa force intrinsèque à s'accroître insensiblement et à devenir un règne de Dieu. Chapitre 13, versets 31, 32 et 33. Enfin, il rassemble tous les devoirs. Premièrement, dans une règle générale, comprenant à la fois les relations morales internes et externes des hommes, qui est fait ton devoir sans autre mobile que sa considération immédiate, c'est-à-dire aime Dieu, législateur à l'égard de tous les devoirs, et aime-le par-dessus tout. Deuxièmement, dans une règle spéciale, portant sur les relations extérieures des hommes entre eux considérées en tant que devoir général, aime ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire travaille à son bien, dans un esprit désintéressé, de bienveillance envers lui. Ces deux commandements ne sont pas seulement des lois de la vertu, mais aussi des préceptes relatifs à la sainteté vers laquelle nous devons tendre et par rapport à quoi l'effort, à lui seul, se nomme vertu. À ceux qui croient pouvoir, les bras croisés et d'une façon tout à fait passive, attendre que ce bien moral leur tombe du ciel comme une autre manne, il dénie tout espoir. Laisser improductive la disposition naturelle au bien inhérente à notre nature, à titre de talent dont elle a le dépôt, et compter paresseusement sur une influence morale plus élevée qui viendra compléter quand même ce qui nous manquera en qualité et en perfection morale, c'est encourir la menace qui nous est faite de ne voir tenir aucun compte, précisément pour cette négligence, même du bien que nous aurons pu accomplir par simple disposition naturelle. Chapitre 25, verset 29. D'autre part, en réponse à l'attente très naturelle qui porte l'homme à espérer, sous le rapport de la félicité, un sort approprié à sa tenue morale, étant donné surtout tant de sacrifices pénibles rendus nécessaires par la vertu, il lui dit qu'une récompense l'attend dans un monde futur. Chapitre 5, versets 11 et 12. Mais cette récompense sera différente des uns aux autres, comme les intentions qui auront dicté leur conduite. Ceux qui auront fait leur devoir en vue de la récompense promise, ou encore en vue d'échapper à un châtiment mérité, seront distingués des hommes meilleurs, qui auront accompli leur devoir uniquement par amour du devoir. L'homme qui a pour maître l'égoïsme, Dieu de ce monde, mais qui, sans renoncer à cet intérêt personnel, se borne, par raison, à lui enlever son aspect grossier, mais l'étant par-delà l'étroite limite de cette vie, nous est représenté, dans Luc, chapitre 16, versets 3 et 9, comme un intendant qui trompe son maître en se servant de ce maître lui-même auquel il arrache des sacrifices qui ont le devoir pour objet. Lorsqu'il réfléchit, en effet, qu'il lui faudra un jour quitter ce monde, et que ce sera peut-être bientôt, sans pouvoir emporter dans l'autre rien de ce qu'il aura possédé ici-bas, il se résout alors à rayer de ses comptes les sommes qu'il pourrait, lui ou l'égoïsme son maître, réclamer sur terre légalement à des hommes nécessiteux, et à se procurer de la sorte, pourrait-on dire, des billets payables dans l'autre monde. En quoi sans doute il procède plutôt prudemment que moralement, pour ce qui a trait au mobile de ses actes de bienfaisance. Mais il se conforme à la loi morale, au moins à la lettre de cette loi, et il peut espérer que son procédé, malgré tout, aura sa récompense sociale. Note. Nous ne connaissons de la vie future, et ne devons d'ailleurs chercher à en voir, que ce qui se trouve en accord rationnel avec les mobiles de la moralité et avec leur fin. De cet ordre est aussi la croyance qui veut que toute bonne action doive infailliblement avoir pour son auteur, dans un monde futur, des conséquences bonnes, et que, par conséquent, à quelque degré qu'il mérite la réprobation vers la fin de sa vie, l'homme ne doive pas cependant renoncer à faire au moins encore une bonne action, s'il le peut. Parce qu'alors il a des raisons d'espérer que, dans la mesure où il y attache une pure et bonne intention, cette action aura plus de prix que toutes ces espèces de purifications inertes qui, sans amoindrir en quoi que ce soit la culpabilité, visent à supplier au défaut de bonnes actions. Fin de la note, retour au texte. Si l'on compare avec cela le passage où il est question du bien qu'on fait aux pauvres sous l'impulsion des simples motifs du devoir. Matthieu, chapitre 25, versets 35 à 40. On y verra que le juge du monde déclare que ceux-là qui ont secouru les nécessiteux sans même songer que par là ils méritent une récompense, et pour ainsi dire obligent le ciel à la leur donner, justement parce qu'ils accomplissent ces actions sans avoir égard à la récompense, sont les élus véritables de son royaume. Et par suite, on se rendra compte que le maître de l'Évangile, quand il parle de récompense à recevoir dans un monde futur, ne se propose pas d'en faire le mobile des actes humains, mais se borne à la présenter en qualité d'image édifiante de la bonté, de la sagesse parfaite, manifestée par Dieu dans la direction de l'espèce humaine, comme l'objet de l'adoration la plus pure et de la complaisance morale la plus grande, pour une raison qui appréciera la destinée tout entière de l'homme. Nous avons donc ici une religion intégrale que tous les hommes peuvent, par leur propre raison, comprendre et trouver convaincante, et qui de plus s'est rendue visible dans un exemple qui peut et qui doit même nous servir de modèle, dans la mesure où l'homme est capable de l'imiter. Et ni la vérité des doctrines qu'elle professe, ni l'autorité, ni la dignité de celui qui l'a enseignée, n'ont besoin d'une autre confirmation, qui réclamerait science et miracles, choses qui ne sont pas du ressort de chacun. Lorsque ce docteur se réfère à une législation plus ancienne et à une antique figuration, à la religion mosaïque, comme s'il voulait y trouver la confirmation de ses dires, il ne le fait pas pour fonder la vérité même de ses doctrines, mais pour leur trouver un accès facile auprès d'hommes entièrement et aveuglément attachés aux anciens usages. Car, nécessairement, on a toujours plus de difficultés à prêcher des hommes au cerveau farci d'articles de foi statutaires, presque entièrement incapables de rien entendre de la religion rationnelle, qu'à s'adresser à la raison de gens ignorants, mais non déformés. Nul, par conséquent, ne doit s'étonner de trouver que cette manière, accommodée aux préjugés d'alors, rende énigmatique aujourd'hui l'exposé de cette doctrine et nécessite une explication attentive, bien que, de toutes parts, transparaisse et s'énonce même explicitement, bien des fois, une théorie religieuse que chacun doit comprendre et trouver convaincante sans aucun frais d'érudition. Chapitre 2. La religion chrétienne en tant que religion savante. Quand une religion expose comme nécessaire des articles de foi que la raison ne peut reconnaître à ce titre, et qui doivent pourtant à perpétuité se transmettre aux hommes sans changement, pour ce qui est de leur fond essentiel, il faut, à moins d'admettre un miracle continuel de la révélation, regarder cette religion comme un bien sacré dont la garde est confiée à des savants. Car bien que, au premier temps, accompagnée de miracles et de faits, elle ait pu partout être admise, même en ce qui n'est point confirmé par la raison même, le récit lui-même de ces miracles et des enseignements qu'ils doivent confirmer rendent nécessaire, au siècle futur, pour l'instruction de la postérité, une doctrine scripturaire documentée et immuable. C'est à l'admission des principes d'une religion que l'on donne, par excellence, le nom de foi. Nous aurons donc à regarder la foi, et comme une foi rationnelle pure, et comme une foi révélée. La première est la foi librement adoptée par tous, tandis qu'on peut dire de la seconde qu'elle est une foi commandée. L'existence du mal au cœur de tout homme, sans exception, l'impossibilité de jamais nous considérer comme justifiés devant Dieu par notre conduite, et en même temps, la nécessité d'avoir une justice qui soit valable devant lui, l'inutilité de vouloir suppléer à l'insuffisante moralité par des observances d'église et une dévotion servile, et parallèlement, l'obligation imprescriptible de nous transformer en hommes nouveaux, ce sont là des thèses dont la raison peut montrer à chacun la force convaincante, et qu'il appartient à la religion de nous présenter comme telle. Mais hors de là, puisqu'elle s'appuie sur des faits, au lieu d'être construite sur de purs concepts rationnels, la doctrine chrétienne n'est plus uniquement la religion chrétienne, mais bien la croyance chrétienne, sur quoi s'est bâtie une église. Une église qui offre ce double caractère réclame donc un double culte. D'une part, celui qu'on lui doit parce qu'elle est une foi historique. D'autre part, celui qui lui appartient en sa qualité de foi rationnelle, pratique et morale. Aucun des deux ne peut, dans l'Église chrétienne, être séparé de l'autre et envisagé comme subsistant à lui seul. Le second ne saurait aller sans le premier, parce que la foi chrétienne est une foi religieuse, ni le premier s'isoler du second, parce que cette foi est une foi savante. La foi chrétienne en tant que foi savante s'appuie sur l'histoire, et dès lors, objectivement, basée sur l'érudition. Elle n'est plus une foi libre en soi, une foi qui provient de la pénétration de raisons probantes spéculatives. Si elle est une foi rationnelle pure, bien que les lois morales sur lesquelles elle est établie, en sa qualité de croyance en un législateur divin, expriment des ordres inconditionnés, il faudrait lui donner le titre de foi libre, comme nous l'avons montré au premier chapitre. Je dirais plus, elle pourrait encore, pourvu qu'on ne fît pas une obligation d'y croire, même en tant que foi historique, être une foi théoriquement libre, si tout le monde était savant. Mais quand elle doit s'appliquer à tous, et valoir aussi pour les ignorants, ce n'est plus simplement une foi commandée, mais encore une foi aveuglément soumise au commandement, c'est-à-dire qu'il lui obéit sans s'informer si véritablement ce commandement émane de Dieu. Or, dans l'enseignement de la révélation chrétienne, on ne saurait faire passer d'abord la foi inconditionnée à des dogmes révélés, cachés par leur essence à la raison, et faire venir après elle la connaissance savante, ayant uniquement pour rôle, en quelque sorte, de nous couvrir contre l'attaque d'un ennemi survenant par derrière. Car la foi chrétienne, en ce cas, serait non seulement fides imperata, mais encore fides servilis. Elle doit donc toujours être, au moins, enseignée comme foi historique. C'est-à-dire que l'érudition dans une telle foi, en sa qualité de foi révélée, devrait constituer non l'arrière-garde, mais l'avant-garde, et que le petit nombre des hommes versés dans les écritures, dictaires, gens qui ne devraient pas être entièrement dépourvus d'instruction profane, marcheraient à la tête de la longue file des ignorants, des laïcs, lesquels n'ont pas d'eux-mêmes étudié à fond l'écriture. Et dans cette foule se trouvent eux aussi les rois de la terre. Pour que cela ne se produise pas, il faut que l'universelle humaine raison, souveraine maîtresse de la religion naturelle, soit reconnue et honorée dans le système de la foi chrétienne comme le souverain et suprême principe, mais que l'on y aime et qu'on y cultive les enseignements révélés, sur lesquels se fonde une Église, et par rapport auxquels les savants jouent le rôle obligé d'interprète et de gardien, comme un simple moyen, mais extrêmement précieux, de donner à la religion la clarté nécessaire pour que les ignorants eux-mêmes la saisissent et de lui procurer diffusion et durée. C'est alors un vrai culte que celui de l'Église au service du bon principe. Mais dès que la foi révélée prend le pas sur la religion, on voit paraître le faux culte, qui renverse totalement l'ordre moral et impose comme absolu, exactement comme si c'était une fin, ce qui a seulement la valeur d'un moyen. La croyance à des dogmes, tels que l'ignorant ne peut les connaître comme vrais, ni par la raison, ni encore par l'écriture, dont il faudrait d'abord démontrer l'authenticité, se verrait transformé en devoir absolu et serait élevé, avec des observances qui ne peuvent s'en séparer, au rang d'une foi qui sanctifierait en sa qualité de culte servile sans que soient nécessaires des principes moraux nous déterminant à l'action. Une église fondée sur ce dernier principe n'a pas de serviteur, à proprement parler, comme c'était le cas pour la précédente organisation, mais bien des fonctionnaires qui commandent de haut. Et ces dignitaires ecclésiastiques, sans toujours se montrer dans l'éclat de la hiérarchie ou paraître investis d'un pouvoir extérieur, et même en protestant la contre, c'est ce qui se produit dans une église protestante, veulent toujours, en fait, se savoir regarder comme les interprètes, les seuls autorisés de la Sainte Écriture, après avoir ravi à la religion rationnelle pure la dignité qui lui appartient en propre d'être toujours la souveraine interprète de l'Écriture, et avoir imposé la seule science de l'Écriture comme le vrai moyen d'appuyer la foi de l'Église. Au lieu de serviteur de l'Église qu'il devrait être, il se transforme en commandeur des croyants. Bien que pour marquer cette usurpation, il se donne toujours le titre modeste de serviteur. Mais ce rôle de commandeur leur coûte cher à soutenir. La raison aurait pu aisément gouverner. Eux, pour gouverner, doivent dépenser une immense somme d'érudition. Car leur domination, aveugle pour ce qui regarde la nature, se charge sur la tête toute antiquité et s'ensevelit sous ce fait. Voici quelle est la marche que prennent les choses une fois mises sur pied. D'abord, on considère la méthode suivie prudemment par les premiers apôtres pour propager la doctrine du Christ et lui frayer des voies parmi le peuple, comme une partie intégrante de la religion elle-même, applicable à tous les pays et valable pour tous les temps, de sorte qu'il faut regarder tout chrétien comme un juif dont le Messie est arrivé. Mais quoique les deux choses ne s'accordent pas bien, on n'exige pas des chrétiens proprement parlés qu'ils obéissent aux lois du judaïsme, à aucune loi positive, tout en leur réclamant d'accepter avec foi tous les livres saints de ce peuple comme une divine révélation qui s'adresse à tous les mortels. Note. Mendelssohn, très adroitement, mettait à profit ce point faible de l'idée que l'on donne ordinairement du christianisme pour repousser complètement toute prétention des chrétiens à la conversion des fils d'Israël. En effet, disait-il, d'après leur propre aveu, la foi judaïque est la construction sur laquelle repose l'édifice plus élevé du christianisme. Autant vaudrait alors vouloir pousser quelqu'un à quitter le rez-de-chaussée pour loger au premier étage. Et sa véritable pensée transparaît assez clairement. Il veut dire « Commencez donc par jeter vous-même le judaïsme hors de votre religion. » Il peut cependant demeurer comme une anticaille dans l'exposé historique de la croyance. Et nous pourrons alors prendre en considération vos propositions. En fait, on n'aurait guère plus en ce cas qu'une religion purement morale et sans addition de lois positives. Notre fardeau ne sera nullement allégé lorsque nous aurons rejeté les observances extérieures si vous remplacez ce joug par un autre, la profession de foi aux Saintes Écritures, bien plus lourd et plus accablant pour les gens consciencieux. Les livres saints du peuple juif seront toujours d'ailleurs conservés et appréciés, à cause des services qu'ils rendent, non pas à la religion, mais à la science. Car l'histoire d'aucun peuple ne remonte aussi haut, et avec un même air d'authenticité, que ces livres, où nous est décrite même la naissance du monde. Il parle des époques les plus reculées dans la nuit des temps, où l'on peut faire entrer tout ce que nous savons de l'histoire profane, et la grande lacune laissée par cette histoire est ainsi comblée, grâce à eux. Fin de la note, retour au texte. Or, on a tout de suite de nombreuses difficultés avec l'authenticité de ce livre, qui n'est point prouvé, tant s'en faut, du fait seul que certains passages de ce livre, on peut même dire toute histoire sainte qu'il raconte, se trouvent reproduits dans les livres chrétiens en vue de la fin plus haut indiquée. Avant les commencements du christianisme, et même avant l'époque où la diffusion de cette doctrine fut devenue déjà considérable, le judaïsme n'avait pas encore pénétré dans les milieux savants, c'est-à-dire que les savants étrangers de la même époque ne l'avaient pas encore bien connu. Son histoire n'avait pas encore été contrôlée, peut-on dire. Et c'était en raison de son antiquité que son livre sacré s'était vu concéder l'authenticité historique. Admettons-nous aussi cette authenticité. Il n'en reste pas moins que ce n'est pas assez de connaître ce livre dans les traductions et de le transmettre ainsi à la postérité. Au contraire, pour la sûreté de la foi ecclésiastique établie sur lui, il sera requis, en outre, qu'il y ait en tout temps et en tout pays des savants qui sachent l'hébreu, autant qu'il est possible de savoir une langue dont nous n'avons plus qu'un seul livre. Ce n'est point seulement la science historique en général, mais l'humanité tout entière, puisque son salut en dépend, qui sont intéressés à ce qui se trouve des hommes connaissant assez la langue hébraïque pour garantir au monde la religion véritable. Il est vrai qu'en un sens, la religion chrétienne se trouve dans le même cas. Les saints épisodes qu'elle raconte se sont déroulés sans doute en public et sous les yeux même d'un peuple instruit. Mais son histoire a mis plus qu'un âge d'homme à pénétrer dans le public savant. Et par suite, n'a point une authenticité confirmée par des témoignages contemporains. Mais cette religion a sur le judaïsme le grand avantage d'être donnée comme sortie de la bouche du premier maître, sous la forme non pas d'une religion statutaire, mais d'une religion morale, si bien que, se trouvant très étroitement unie avec la raison, elle peut, grâce à elle, se propager d'elle-même, mais sans le secours de l'érudition historique, avec la plus grande sécurité, en tout temps et en tout pays. Les premiers fondateurs de la communion chrétienne, il est vrai, estimèrent devoir fondre avec ces données l'histoire du judaïsme, et c'était de leur part acte de prudence dans la position où ils se trouvaient. Mais ce procédé, qui peut-être ne convenait qu'à cette époque, s'est transmis jusqu'à nous dans leur saint héritage. Et les fondateurs de l'Église mirent au rang d'articles de foi essentiels ces moyens d'apologétique d'une période de transition, et en augmentèrent le nombre, en ayant recours à la tradition ou à des interprétations auxquelles des conciles accordèrent force de loi ou que confirmèrent les érudits, sans qu'on puisse prévoir toutes les modifications que feront subir à la foi l'exégèse savante ou, ce qui en est l'antipode, la lumière intérieure, où tout laïc peut prétendre. Et ces modifications sont inévitables tant qu'au lieu de chercher la religion en nous, nous la chercherons en dehors de nous.